Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus.
Nous avons la parole de Dieu
ici, Jabodima,
qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Et nous, nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu est en toi, comme nous sommes en toi. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Donc, lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, ne te dis pas, j'ai prié le Père, mais j'ai pas prié le Fils, et puis je ne sais pas s'il faut que je rende grâce à l'Esprit. Non, non, c'est que tu n'as pas compris la puissance de la Trinité. Alors que tu vois effectivement que un homme est fait en trois parties, et pourtant tu ne vois que la partie visible, c'est-à-dire son corps, et bien de la même manière, Jésus-Christ est la partie visible de Dieu. Mais la puissance et la toute-puissance de Dieu, c'est que les trois dimensions de Dieu peuvent se séparer. C'est là la toute-puissance du Seigneur. Le Père est dans les cieux et tu ne le vois pas. Le Fils est venu sur la terre et il parlait à son Père, qui est lui-même. C'est pour ça qu'il dit à Philippe, « Mais Philippe, tu cherches le Père, tu ne m'as pas vu depuis, je suis là !» Et que Jésus est monté aux cieux et qu'il a envoyé son Saint-Esprit. Et que son esprit est au milieu de nous, c'est pourquoi il dit « Je suis au milieu de vous !» Jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, Dieu est avec toi. Et Dieu est près de toi. Dieu est en toi. Et Dieu veut avoir une relation avec toi par la prière. Maintenant, tu commences à comprendre que lorsque tu viens dans la prière, tu dois fixer sur Jésus. Parce qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Il s'est fait homme pour venir à ta dimension, pour que Dieu ne soit pas trop lointain de toi. Il a pris le corps d'un homme pour avoir des sentiments comme toi, pour éprouver des difficultés comme toi, afin de mieux te comprendre. Donc tu peux lui parler comme on parle à un homme. Tu peux rentrer dans une communication avec lui, dans un dialogue avec lui. Voilà la prière. Mais je te dis que si tu comprends que la prière, c'est comme une ligne téléphonique directe avec Jésus, tu seras tout le temps fourré dans la prière, mon ami. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le tout-puissant se rend disponible à toi. Tu n'as qu'à venir. Juste appelle. Appelle. On ne peut pas te forcer à prier. Ça ne peut plus être une corvée pour toi. Parce que tu sais que Jésus est disponible. Il est accessible. Il dit, venez à moi tandis que je suis prêt, que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel qui pardonne abondamment. Donc voilà, invoquez mon nom tandis que je suis prêt. C'est le moment de l'invoquer et d'avoir une vie remplie de feu, remplie d'intimité. La prière, c'est un rendez-vous personnel avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a parlé abondamment dans Matthieu 6. Ton Père qui est dans le secret te le rendra. Ton Père qui est dans le secret. Voyez-vous, le Seigneur n'est pas de ce genre d'ami intime qui veut faire comme par exemple, vous savez les couples ici à Paris, partout où vous allez, ils commencent à s'embrasser dehors. Vous les voyez s'embrasser dans le métro. Vous les voyez s'embrasser sur les quais. Toute leur intimité, ils veulent dévoiler devant tout le monde. Mais Jésus n'est pas comme ça. L'intimité avec toi, ça se passe dans le secret. Dans le secret. Donc ce n'est pas la peine de nous farcer aussi. Quand tu viens ici, alléluia, oui Jésus. Et puis à la maison, il n'y a plus rien. Parce que Jésus voit tout ça. Il dit, mais regardez-moi celui-là. Mais vraiment, il est chaud le dimanche, mais à la maison, hein, c'est rien du tout. Il m'a oublié. Eh oui. Donc il dit, c'est dans le secret. Alors puisque c'est dans le secret, tu vas commencer à rentrer dans ce secret et commencer à chercher l'Éternel. La prière, c'est quelque chose de volontaire. Le Seigneur dit, invoquez-moi. cherchez-moi, veillez et priez. Voyez-vous, c'est une dynamique, c'est volontaire. On n'est pas là passivement et puis tout d'un coup, comme s'il y a quelque chose qui nous pousse, boum, je suis dans la prière. Non. C'est volontaire. Tu dis, je vais prier. Là, je vais prier. Je me lève le matin, je prie. Je me couche le soir, je prie. Je passe une veillée de nuit de prière avec mon Dieu parce que là, il faut que je prie. C'est volontaire. Et enfant de Dieu, vous n'avez pas encore manifesté votre volonté vis-à-vis du Seigneur. Tu n'as pas montré au Seigneur que tu es volontaire dans ta relation avec lui. C'est lui qui t'a courtisé. Depuis longtemps, il ne fait que ça. Même quand tu viens au culte de gospel, le Seigneur parle, il prophétise, il te dit, il parle abondamment, il te courtise. Il est même fatigué de te courtiser. Mais tu es comme une fiancée. On te courtise, mais tu veux faire l'orgueilleuse. Alors que tu sais que tu as besoin. Yuseline, sois bénie. Tu as eu les bonnes réponses. Tu n'as pas tardé, Yuseline. Tu as raison. Parce qu'il y a des filles, lorsqu'on les courtise, je le laisse venir. Il n'a qu'à venir encore. Je vais voir encore. Il est temps de répondre à l'appel. Il est temps de manifester ta volonté pour le Seigneur. Et vous savez, la volonté, ça se fixe. Ça veut dire que la volonté, on n'est pas là un jour, oui, je suis volontaire, demain, je ne suis pas volontaire. La volonté, ça se fixe. Lorsque tu t'engages dans un contrat avec ton patron et que tu travailles dans une société, tous les matins, tu as la volonté, non, pour aller te lever et puis travailler. Il y a même des personnes, ça fait 30 ans qu'ils travaillent pour la même société, ne sont pas fatigués. Comment se fait-il qu'avec le Seigneur, on se fatigue? Un Dieu si bon, un Dieu si généreux, un Dieu si fidèle. On se fatigue dans notre décision. Il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps d'être volontaire et engagé dans notre vie de prière. La prière, c'est une demande. La prière, c'est une demande. Voyez-vous, il y a aussi des personnes qui vont dans la prière mais qui ne savent pas comment prier. Et je bénis le Seigneur de ce que les disciples sont venus un jour dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils avaient assez d'humilité pour réaliser qu'ils ne savaient pas prier. Est-ce que toi, tu réalises que tu ne sais pas prier ? Parce que si tu réalises, on peut t'enseigner. On peut te montrer la démarche, tu vas mettre en pratique et tu vas connaître la victoire. Tu vas connaître les exaucements. Mais si tu crois que tu as déjà tout su, tout connu, ça sera difficile. La prière est une demande. La prière n'est pas, voyez-vous, quand vous allez venir et puis dire, Seigneur, regarde ma situation vraiment. Ah Seigneur, regarde ma situation. Tu as vu, hein? Tu as vu ce qu'un tel m'a fait. Tu as vu, Seigneur. Vois, Seigneur. Mais Dieu voit, il n'est pas aveugle. D'ailleurs, toi-même, tu ne vois pas aussi bien que lui. La prière, c'est une demande exprimée à Dieu. Prenons Matthieu 6. Je sais que dans certaines églises, malheureusement, qui se sont éloignées de la vérité du Seigneur, lorsqu'on prend ce passage, ils croient que c'est une récitation que Dieu nous a donnée. Mais si vous avez compris que le Seigneur, c'est une personne, vous ne pouvez pas lui réciter des chapelets, vous ne pouvez pas lui réciter des neuvaines, vous ne pouvez pas lui dire la même chose tout le temps. Parce qu'il va être fatigué. Il ne va même pas écouter. Si par exemple, je ne sais pas moi, si Yuseline vient vers moi, elle me dit tous les jours, bonjour évangéliste, tu vas bien, comment vas-tu? Au revoir. Tous les jours, je vais dire, ah, elle a un problème. C'est une demande exprimée. Et au travers de ce passage, donc Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, le Seigneur a donné, il a donné un exemple. Il a donné une méthode de prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Tu vas te dire, ben oui, le Seigneur a donné cette prière, ça veut dire que lorsqu'on prie, ça fait moins de 2 minutes déjà. Donc, Dieu est simple, Dieu... Non, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, vous verrez vous-même, lorsque vous observez la vie de Jésus, Jésus partait tôt, il sortait tôt pour aller prier. Et il passait du temps. Donc, tous les disciples, ne voyant pas Jésus le matin, le cherchaient. Ils disaient, mais il est où le maître? Il était en prière. Et lorsque le Seigneur était sur le point d'aller à la croix, il a dit à ses disciples, vous ne pouvez pas veiller avec moi 1 heure. Parce que la prière doit au moins durer 1 heure. Au moins 1 heure. Et c'est là qu'on va voir que tu as vraiment prié. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un dialogue, comme je t'ai dit. Et tu ne peux pas penser que tu soignes ta communion ou ta relation avec quelqu'un si tu ne passes pas du temps avec cette personne. 2 minutes et tu crois que tu as soigné ta relation. C'est ça que tu donnes à ta femme, à tes enfants, et tu crois que tu as une relation. Donc avec le Seigneur, au moins 1 heure de prière par jour, au moins. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que lorsque tu vas commencer ta prière, tu vas commencer par les louanges à Dieu. Tu vas commencer par le glorifier. Tu vas commencer par l'exalter. On ne rentre pas n'importe comment dans la cour du roi. Voyez-vous, Esther, lorsqu'elle est rentrée pour faire une demande au roi, à son mari, elle est venue, elle a dit, « Oh, si le roi considère, si le roi, ceci, si le roi... » Pourquoi ? Parce qu'elle honore le roi, voyez-vous ? Et vous devez honorer le Seigneur pour qui il est. C'est la première des choses que vous devez faire. Considérer le Seigneur pour qui il est. Que ton nom soit sanctifié. Et je peux vous dire que rien que sur le nom du Seigneur, vous pouvez y rester plus d'une demi-heure déjà. Rien que sur le nom. El Shaddai, Adonai, Yahvé Jireh, Yahvé Nissi, Elohim, Emmanuel, Jésus-Christ, roi des rois, seigneur des seigneurs, et commence à lui dire, tu es celui qui a fait, tu es celui qui a fait ceci, tu es celui qui a ouvert la mer rouge, tu es l'éternel, ton nom est grand, ton nom est magnifique, ton nom est puissant, ton nom est glorieux, ton nom est majestueux, tu es élevé, tu es sanctifié. Oh, je prie que 5 minutes, mais pourquoi? Parce que tu n'es pas en relation avec celui pour qui la prière doit être adressée. Sinon tu vas lui dire encore beaucoup de choses. Ça c'est pour commencer. La deuxième partie, que ton règne vienne. Ça veut dire que tu montres au Seigneur que tu considères le plan de Dieu pour l'humanité. Donc Seigneur, j'espère en toi, j'attends ton retour Seigneur, j'attends que l'église avance, j'attends, je veux ces choses Seigneur, je désire ardemment que ta volonté soit faite sur la terre. Voyez-vous ? Que ta volonté soit faite sur la terre. Et soit dit en passant, si tu considères donc que tu veux que la volonté de Dieu soit accomplie, ça veut dire que tu te soumets à cette volonté. Alors tu dis au Seigneur, je me soumets à toi Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Parce que sur la terre, c'est bien de dire que ta volonté soit faite sur la terre, mais c'est toi qui es sur la terre. Et c'est toi qui parles à Dieu. Donc il faut que tu désires que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Et à ce moment-là, tu es en train de dire au Seigneur que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Ouvre mon esprit pour que je comprenne quelle est ta volonté. Révèle-moi tes plans pour que j'accomplisse ta volonté. Ouvre cette journée pour que dans cette journée, je ne passe pas à côté du plan que tu as pour moi, mais pour que j'accomplisse ta volonté. Troisième partie. Une fois que tu t'es soumis à la volonté de Dieu, tu demandes à Dieu. C'est là que tu dois lui demander tout ce dont tu as besoin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, voici, j'ai tel besoin. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Regarde, vois, j'ai tel besoin, agis. Père, donne-moi. Père, donne-moi. C'est une prière, c'est une demande. Ne dis pas au Seigneur, Seigneur, vois mes problèmes. Seigneur, vois. Et puis tu n'as rien demandé. Demande la solution. Le Seigneur dit, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Demande au Seigneur. Et assure-toi que ta demande n'est pas pour satisfaire ta convoitise. Vous savez pourquoi Yuseline est fiancée aujourd'hui ? Moi, j'étais là au tout début de l'histoire, donc je suis bien au courant de tout. Elle est fiancée parce qu'elle n'a pas dit au Seigneur, « Seigneur, donne-moi un mari riche. Donne-moi un mari beau, magnifique, les yeux bleus, les cheveux comme ça. » Elle n'a pas demandé ça. Comme tu fais des demandes bizarres, là, le Seigneur ne peut pas t'exaucer. Parce que tu lui demandes des choses qui ne correspondent pas à ta vie. Tu rêves sur ta vie, tu es dans l'illusion, tu rêves sur ta vie, tu es en train de te faire même un film sur ta vie, donc tu n'entres pas dans la réalité, donc tu ne possèdes pas. Quand elle a dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi un mari, je peux vous dire qu'elle a jeûné et prié 7 jours. Quand elle est venue me voir, je lui ai dit, Yuseline, le temps est arrivé, demande ton mari au Seigneur, vas-y dans la prière. Elle est allée dans la prière directe. Elle a dit au Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi mon mari. Là maintenant c'est le temps, l'évangéliste m'a dit c'est le temps, donne-moi mon mari. Et bien le mari est arrivé aussi sec. Alléluia. Jésus répond à la prière. Allez-y lui demander s'il n'a pas répondu. Gloire à Dieu. Et c'est là, une fois que nous avons fait nos demandes, c'est à ce moment-là seulement que nous disons au Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Et j'aimerais vraiment vous instruire, peuple de Dieu, s'il vous plaît. Souvent, lorsque vous commencez à prier, vous commencez à demander pardon au Seigneur. Dès que vous entrez dans la présence de Dieu, vous savez que vous allez passer un moment de prière, vous commencez, Seigneur, je te demande pardon. Et le Seigneur veut te montrer aujourd'hui, il veut te faire comprendre une révélation profonde et que tu dois recevoir et mettre en pratique. Ne viens plus au Seigneur en demandant pardon. Est-ce que tu vas le faire. D'accord ? Vous allez obéir ? Est-ce que vous allez obéir ? Est-ce que vous allez recevoir l'enseignement ? Ne viens plus au Seigneur en demandant pardon. Parce que c'est un profil bas que tu prends. C'est un profil de culpabilité. Tu viens au Seigneur, tu te sens indigne. Alors que la Bible nous dit, approchez-vous du trône avec confiance, le trône de la grâce, sachant que vous avez le sang de Jésus. Jésus n'est pas mort pour rien. Il n'est pas mort pour rien. Et lorsqu'il te voit, il voit son sang sur toi. Il veut tout simplement que tu prennes conscience de ton péché. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, celui qui s'est lavé est déjà pur. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il se lave les pieds. Donc, quand tu viens au Seigneur, tu commences par le louer. Je te loue, Seigneur, pour ta grande miséricorde. Alléluia. Tu viens avec assurance. Ton péché, Jésus, il l'a déjà englouti il y a 2000 ans. Tout ton péché, tout ton péché, tout ton péché pour ta vie passée, ta vie présente, ta vie à venir, jusqu'à ce que tu rentres dans le royaume des cieux, il a déjà réglé cette question. Donc le Seigneur ne veut pas que tu viennes en parlant du péché. Il a déjà tout accompli. Il veut que tu viennes pour les choses glorieuses. Il veut que tu viennes pour la victoire. Il veut que tu viennes pour l'avancement de son règne. Il veut que tu viennes avec assurance. Il veut que tu viennes avec un esprit de conquête pour ta propre vie. Il veut que tu viennes avec la joie, l'allégresse de savoir que ton Dieu est avec toi. Commence par louer le Seigneur, parce que c'est tout ça qui est très lourd, et ça se sent même dans le culte. Cette culpabilité, lorsque vous arrivez, vous vous sentez comme si vous n'êtes pas digne. Vous êtes digne, parce que Jésus a payé le prix. Vous êtes digne. Alléluia. Sinon, le sacrifice de Jésus serait inutile. Vous avez cru en lui. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. C'est tout. Donc, quand nous nous approchons, c'est du trône de la grâce. Nous ne sommes pas en train de nous approcher du trône de la condamnation. Non. Nous nous approchons du trône de la grâce. Là où Dieu veut déverser. Là où Dieu veut donner. Là où Dieu veut bénir. Là où Dieu veut exaucer. C'est de ce trône que nous nous approchons. Donc c'est à ce moment-là seulement, quand nous avons bien loué l'Éternel, quand nous lui avons fait toutes nos demandes, que nous pouvons lui demander pardon pour nos fautes, les péchés quotidiens qu'on a pu commettre dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles. Pourquoi ? Pourquoi c'est à ce moment-là ? C'est à ce moment-là parce que dans cette merveilleuse présence du Seigneur, Dieu, par son esprit, va vous convaincre de péché. Dieu ne veut pas que vous puissiez vous séduire vous-même. Une fois que vous avez dit au Seigneur, « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, etc. » il y a comme l'impossibilité pour l'Esprit de Dieu de vous révéler votre faute. Et Dieu ne peut pas vous montrer votre propre péché pour que lui-même vous sanctifie, parce que c'est lui qui vous sanctifie. Vous ne pouvez pas faire cet effort par vous-même. Mais lorsque Dieu peut vous montrer par son Saint-Esprit ce que vous avez fait de travers, à ce moment-là, à partir du moment où c'est Dieu qui vous l'a montré, vous ne serez plus jamais le même. Vous ne referez plus jamais la même faute. Parce que c'est Dieu qui vous a touché dessus. Donc c'est pourquoi il faut suivre les conseils du Seigneur Jésus. On ne vient pas au Seigneur en demandant pardon. On vient au Seigneur en le louant et laissez que cette présence de Dieu vous montre là où vous avez fauté. Ensuite, le Seigneur dit dans notre prière de dire « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Et j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas pour cela. Le Seigneur me l'a dit. Que nous ne prions pas pour être délivrés de la tentation. Pourtant, qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Or, nous prions pour toutes sortes de choses, mais nous ne prions pas pour ne pas pécher. Nous ne prions pas pour ne pas pécher. Vous savez, la tentation n'est pas le péché, mais c'est le fait d'entrer en tentation qui est le péché. La nuance, c'est quoi ? La nuance, c'est que, je vais prendre un exemple, vous êtes caissière, et vous avez des billets qui défilent devant vous toute la journée. Vous manipulez des billets. Et vous-même, vous savez que vous êtes dans les difficultés. Vous manipulez, vous manipulez, vous manipulez. Et comme vous êtes dans les difficultés, donc un esprit malin va venir envoyer une flèche pour te dire, prends ça. Prends ça, tu as besoin. Prends seulement. Après tout. Tu vois, ça, c'est la tentation. Mais le fait d'entrer dans la tentation... c'est lorsque tu vas te dire, bon, là, ouais, comment je vais faire là ? Je vais prendre ça, je vais faire ça, ouais, voilà. Et que tu as commencé à te dire, oui, oui, je vais faire. Ouais, comment je vais faire ça ? Tu commences à planifier comment tu vas faire. Donc, ça, c'est là que tu es entré en tentation. le péché déjà de la convoitise dans ta pensée. C'est là, parce que tu as dit oui. Ce n'est pas le fait que la pensée est venue, mais c'est le fait que tu as dit oui. Voyez ? Donc, la tentation peut venir, et la tentation n'est pas péché. Mais c'est le fait de dire oui à la mauvaise pensée qui est entrée en tentation. Et à partir du moment où tu as commencé à dire oui, la Bible dit quoi ? Que lorsque la convoitise a enfanté le péché produit la mort. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu t'es déjà dit oui, tu as eu cette convoitise, et à ce moment-là, tu es passé à l'action. Voilà. Donc, comprenez que le Seigneur nous dit de prier pour ne pas entrer en tentation. Ce qui signifie que nous devons faire attention. Dans notre prière, nous devons commencer à prendre position. Seigneur, protège-moi, protège ma pensée, protège mon esprit, protège mes yeux, protège mes mains, afin que je ne pêche pas contre toi. Ne permets pas que si une tentation vienne, je tombe dedans. Que je ne puisse pas penser des choses qui ne sont pas à ta gloire, ni que je ne puisse pas faire des choses qui ne sont pas à ta gloire. Voyez ? C'est ça. C'est ça. De veiller et de prier. Et le Seigneur dit veiller et prier. Et c'est là, justement, que ça manque. Et puisque ça manque, le Seigneur voit combien nous tombons. Nous tombons. Chaque jour, nous tombons. Parce que nous ne prions pas pour ne pas entrer en tentation. Mais si tu as cadré tout cela dans la prière dès le matin, je vais te dire que ta journée va se passer vraiment excellemment bien. Tu vas voir la gloire de Dieu dans tout ce que tu vas faire. Parce que tu as déjà cadré. Tu as déjà cadré spirituellement. Tu t'es déjà blindé. Et la dernière partie, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, nous terminons notre prière par la louange. Nous glorifions le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donc, ce n'est que par cette vie de prière-là que tu peux déjà avoir une relation avec Dieu. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, cette relation est basée sur l'amour. Prenons ensemble Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Tout à l'heure, nous allons parler de la foi. Mais je veux d'abord te parler de l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas venir dans la présence de Jésus. C'est par amour qu'on vient parler à quelqu'un. Si tu n'as pas l'amour pour ta femme, pour tes enfants, ça ne t'intéresse pas de savoir ce qu'ils pensent, comment ils vont, qu'est-ce qui ne va pas au fond de leur cœur. Tu es indifférent à leur humeur. Pour toi, tu hausses les épaules, tu te dis « Ah, ça va lui passer ». Parce que tu es indifférent, parce que tu n'as pas d'amour. Et nous avons lu tout à l'heure, Dieu dit « Je ne tire pas ma gloire des hommes, je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu ». Mais j'espère pour toi aujourd'hui que tu as l'amour de Dieu. Et que si cet amour s'était refroidi, tu vas le réveiller très fort. Parce que c'est cet amour que tu as pour le Seigneur qui te permettra d'entrer dans la vie éternelle. L'amour est un détonateur de la foi. C'est par l'amour que la foi devient agissante. Tu peux avoir toute la foi que tu veux. Mais si tu n'as pas l'amour, ta foi est morte. Par exemple, je vais prendre un exemple simple, très simple. Pour vous faire comprendre même comment dans l'œuvre de Dieu les choses peuvent être souvent bloquées. Nous pouvons être là en train de dire « Oui Seigneur, glorifie ton nom, donne-nous un bâtiment. Oui Seigneur, agis, alléluia, le bâtiment, 100%. 100%. Oui, on va te poser la question, est-ce que tu crois que Dieu va nous donner le bâtiment ? Tu vas dire « Oui, je crois, Dieu est tout puissant, il va nous le donner. » Maintenant on va te dire « Bon, écoute, très bien, je suis d'accord avec toi, Dieu va nous le donner. Voilà, on a trouvé le terrain, on a trouvé tout, on veut faire le bâtiment, mais pour démarrer, la banque nous demande 50 000 francs. Est-ce que tu peux faire quelque chose ? Est-ce que tu veux faire quelque chose ? » Alors là, tu vas commencer à dire mais il y a beaucoup de personnes, on pourrait peut-être trouver des solutions. Peut-être que chacun peut donner 1000 francs. Tu commences à trouver des solutions pour tout le monde. Mais toi, tu sais que dans ton compte en banque, il y a 10 000 euros que tu as mis là, plan épargne, je sais pas quoi. Tu ne veux pas le casser. Tu te dis non, on peut faire ça différemment. Tu trouves toutes sortes de solutions. Pourquoi ? Parce que ton amour n'est pas là. Parce que si tu as l'amour, tu vas dire, bon, les autres, ça c'est les autres, mais moi, Jésus, tiens, ça c'est l'occasion, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Tu regardes ton compte, tu vois, ah, Seigneur, je prends ça pour toi, voilà, tiens, fais ton œuvre, Seigneur. Et là, ton amour a rendu agissante ta foi. Et tout le monde voit le bâtiment, tout le monde passe devant, ah, Ah, oh, le bâtiment, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Mm-hmm. Et Dieu, lorsque la gloire remonte à lui, lorsqu'on dit gloire à Dieu, Dieu dans les cieux, il entend gloire à son nom et dit oui, c'est vrai, mais elle a fait. Alors il faut que je la bénisse en retour. La foi est agissante par l'amour. Donc c'est pour ça que Jacques dit, oui, c'est bien, la foi, mais montre-moi tes œuvres et je verrai ta foi. Donc cet amour-là, c'est cet amour qui va te donner de venir dans la présence de Dieu. Et ça va faire que lorsque tu es dans cette présence du Seigneur et que tu lui dis, oui Seigneur, je crois que tu peux me délivrer de la situation dans laquelle je me trouve, Seigneur, délivre-moi, c'est cet amour-là. Cet amour va te faire prendre conscience que le Seigneur dans les cieux t'entend, te voit et qu'il ne peut pas rester indifférent à ta cause. C'est cet amour-là. Mais si tu n'as pas cet amour, si tu ne réalises pas que Dieu est amour et qu'il a tellement de compassion qu'il ne peut pas te voir comme ça dans les problèmes en train de te morfondre, en train de te lamenter sans agir pour toi, à ce moment-là, même ta foi va te dire, ah, j'ai déjà assez prié mais le Seigneur n'entend pas. Voyez, mais l'amour qui est en toi va te faire sentir et savoir que Jésus est là pour moi. Je peux aller encore, j'irai encore jusqu'à ce qu'il m'exauce. La foi agissant par l'amour. La foi, hébreu. Tout le monde connaît ces versets, mais pour les mettre en pratique, c'est autre chose. Hébreu 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc tu vois, tu ne peux pas venir au Seigneur et partir vide. Non. Il est impossible de venir au pied du Seigneur, je dis bien du Seigneur, pas de tes pensées, pas au pied de ce que tu imagines du Seigneur, mais au pied du Seigneur et de repartir vide. C'est impossible. Dieu répond à la prière. Il s'est défini comme tel. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il s'est défini comme tel. Il est le Dieu qui exauce. Donc, ça signifie quoi? Que lorsque tu viens au pied du Seigneur, attends-toi à recevoir. Tu ne pries pas en vain. Il y a le Seigneur qui t'écoute, qui ordonne, qui prend des décrets et qui ordonne à ses anges de faire. Mais ton problème, c'est quoi? Le Seigneur dit dans Luc 18, verset 1, qu'il y avait une femme qui était dans une ville et qui invoquait tout le temps un juge pour qu'elle le délivre de sa situation. Le juge était inique, il était injuste. Alors il a tardé, et un jour il s'est dit, non, cette femme me casse la tête, il faut que j'exauce sa demande. Alors il l'a fait. Et le Seigneur dit, regardez cette femme. Et regardez ce que le juge inique dit. Et moi, ne tarderai-je envers mes enfants qui crient à moi jour et nuit? Il dit, je leur ferai promptement grâce. Promptement. Mais trouverai-je la foi quand je reviendrai? Donc ça signifie quoi? Le Seigneur sait dans quel temps nous nous trouvons. Il sait que les temps sont avancés. Il sait que nous sommes dans la fin des temps et il sait que la foi du plus grand nombre se refroidit. L'amour, la foi se refroidit. Église de Dieu, ne sois pas de cela. Ta foi doit être ferme pour pouvoir voir les exaucements de Dieu dans ta vie. Et la foi de cette femme qui est allée vers un juge inique lui a permis de persévérer jour après jour, jour après jour. Et il faut que ta foi soit pareille. Tu dois être de ceux qui importunent Dieu par leur prière. Tu dois être de ceux qui ne peuvent pas passer inaperçus devant le trône du Seigneur. Or, tout à l'heure, le Seigneur a dit, je ne vous vois pas, parce que vous n'êtes pas devant son trône. Dieu veut entendre la prière de ta vie, que tu lui montres, Seigneur, voilà mes situations, agis, parce que Dieu veut agir, il veut manifester au travers de toi qu'il est le Tout-Puissant. Sinon, comment crois-tu qu'on saura que Dieu est Tout-Puissant? Il veut se manifester et c'est au travers de ta vie, mais il faut que tu sois devant son trône et que tu aies cette foi. Dieu n'est pas un magicien. Quand il répond à la prière, ce n'est pas comme si on a secoué une baguette de fée et puis que la chose est apparue. Non. Il faut que tu comprennes qui est celui que tu invoques. Dieu est créateur. Dis ça à ton voisin, s'il te plaît. Et Dieu n'a pas créé la terre en un jour. 7. Et 7 jours on a bien entendu ce que le pasteur a dit tout à l'heure. Un jour sont comme 1000 ans devant lui. Alors si tu as compris, tu dois savoir que ça prend du temps. Dieu fait, il construit, il établit, il prépare, il fait les choses. Et lorsque c'est fait, il n'y a rien à retrancher, rien à ajouter, c'est parfait. Lorsqu'il fait, tu es tellement content que tu dis merci Seigneur, je vois que tu es sage. Mais malheureusement, ton impatience empêche à Dieu déjà même de commencer à faire quelque chose pour toi. Oui, parce que l'impatience n'est pas la foi. Or, on a vu que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas recevoir de Dieu. Mais comme tu viens au Seigneur avec l'impatience, quand tu as prié une fois, tu te dis, bon, c'est bon. Dieu a entendu, oui, voilà, tu as entendu Seigneur. Alors, tu ne pries plus pour ça et l'exaucement ne vient pas. Et après, tu commences à murmurer, tu commences même à te fâcher, tu commences même à être en colère vis-à-vis du Seigneur. Il y a une irritation en toi que Dieu ne t'a pas exaucé, tu es même aigri. Pourtant, Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu a entendu la prière. Dieu est en train d'agir pour toi. Mais Dieu est créateur. C'est-à-dire que Dieu veut que les choses soient bien faites. Dieu veut que ton cœur soit prêt pour que lorsqu'il va envoyer l'exaucement dans ta vie, ces choses puissent vraiment être pour toi un tremplin pour le niveau supérieur. Et non pas au contraire quelque chose qui t'éloigne de lui. Mais bien souvent, quand tu demandes au Seigneur, il y a des choses qui ne sont pas encore fixées bien dans ton esprit. Et Dieu voit cela. Alors, il veut encore peaufiner le travail. Parce qu'il voit que tu n'es pas encore prête. Je prends un exemple simple. Je vais prendre le cas du mariage. Aujourd'hui, c'est la journée. Si une sœur a tendance à être un peu sauvage, excusez-moi les termes, ça va être difficile pour que Dieu lui donne son mari. Parce que dès qu'un homme vient l'approcher, c'est qui celui-là? Qui c'est qui a fait beau moi? Qu'est-ce qu'il fait là devant moi? Tu commences à le regarder de la tête aux pieds, tu commences à te dire, puis d'ailleurs, il n'est pas tellement beau pour moi. Hein? Il n'est pas assez beau pour moi. Hein? Dieu voit tout ça. C'est pas qu'il ne veut pas te marier, tu vois. C'est un père. Il a beaucoup de filles, il a beaucoup de fils. Il veut te marier, le problème n'est pas là. Mais il voit ton cœur. Ton cœur n'est pas encore prêt. Tu es trop comparaison, comme on dit aux Antilles. Aux Antilles, on dit ça pour dire que tu compares tout. Non. Donc Dieu voit ça. Tu as trop de critères. Et tu ne te vois même pas. Donc Dieu voit qu'il ne peut pas encore. Parce que tu es trop maniéré. Il y a trop de choses encore dans ton esprit. Il y a trop d'idées, de pensées qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu t'arrêtes à l'apparence. Tu ne regardes pas au cœur. Tu as des pensées vaines. Tu penses que le mariage, c'est comme dans les films. Donc dans le film, en fait, il est beau, elle est belle, tout est bien, tout est parfait, et puis voilà. Tu peux pas imaginer que Dieu te donne un mari qui soit pas forcément tellement si beau, mais avec un vrai cœur, quoi. Eh ben oui. Donc Dieu ne peut pas te donner, pourtant c'est un réel bonheur, je vous le dis. Mais il faut être prêt. Il faut abandonner des choses. Lorsque, par exemple, tu es là, tu dis au Seigneur, « Seigneur, donne-moi une voiture. » Dans ton esprit, tu vois déjà la Mercedes. Tu te dis, oui, je veux la Mercedes coupée, tel modèle, tel truc. Tu te vois même déjà dedans. Lorsque tu passes devant Mercedes, tu vois même, tu vas voir le monsieur du magasin, tu t'assois déjà dans la voiture, tu te vois déjà dedans. Tu dis, oui, Dieu va me donner ça. Alléluia, Dieu va me donner ça. Et puis tu pries, rien n'arrive. Moi, je te dis, j'ai prié la semaine dernière pour avoir une voiture, la voiture est garée devant. J'ai prié, j'ai dit, bon Seigneur, c'est vrai que j'ai besoin d'une voiture parce que bon, c'est pas facile, il faut qu'on puisse travailler indépendamment, mon mari et moi. Donne-moi une voiture. Même pas une semaine après, la voiture était là. Ah, Jésus, tu es bon, hein? Tu vas me demander quel modèle? C'est pas la Mercedes, mais ça me suffit. Une petite Golf, vieux modèle de je sais pas quelle année, mais la voiture est propre, elle est nickel. Quand tu conduis, c'est cool. Alléluia! Dieu est bon. Il est bon pour ceux qui s'attendent à lui. Si toi tu veux la Mercedes, tu peux toujours attendre. Hein? Mais moi j'attends ma bénédiction du Seigneur. Donc cette voiture-là, ça me suffit. Et quand je roule dedans, je suis contente parce que je vais là où je veux aller. Tu demandes au Seigneur un travail. Mais Dieu veut te donner du travail. Et lorsqu'on te propose, tiens, voilà telle chose. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est un travail sale. Ça, c'est un travail difficile. Ben oui, ben voilà. Donc, le Seigneur dit, fidèle dans les petites choses, je vous donnerai de plus grandes. Dieu veut te donner, mais tu ne sais pas recevoir. Donc, c'est le problème. C'est le problème. Pour réussir la vie de prière, il faut être simple. Il faut être simple. Il faut parler à Dieu du fond du cœur et vouloir des choses simples. La Bible dit, ne cherchez pas ce qui est élevé. Des fois, nous voulons des choses qui sont tellement lointaines, qui n'ont rien à voir avec notre vie. Et nous n'entrons jamais dans l'accomplissement. Donc, ta vie demeure pareille. Deuxièmement, il faut parler à Dieu du fond du cœur. Tu fixes le Seigneur. Tu fixes que c'est Jésus et tu lui parles du fond du cœur. Ce n'est pas la peine de faire des grands discours à Dieu. De chercher le gros français, comme on dit, bien syntaxé. Je vous le dis, mais je sais, c'est pas, le Seigneur écoute le cœur. Tu peux même être avec deux paroles auprès du Seigneur et lui répéter les deux mots. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Chaque besoin de toi là, il y a tout dedans. Mais je te le dis, chaque besoin de toi, tu vas peut-être répéter ça pendant une demi-heure, mais chaque besoin de toi est différent. Parce que c'est le langage divin. Ce n'est pas un langage fait de mots d'homme. C'est un langage qui exprime la profondeur de ton cœur. Donc on ne cherche pas le gros français pour dire « Oui, éternel !» Je ne sais pas comment, parce que je n'arrive pas à faire ça d'ailleurs. C'est un cœur à cœur. La prière, c'est un cœur à cœur avec Jésus. C'est un cœur à cœur. Et d'ailleurs, que lorsque tu vas commencer à développer cette relation avec le Seigneur dans l'intimité, tu vas voir que lorsque le Seigneur va te parler, il ne te parle pas en gros français. Je te le dis, des mots simples, simples, simples. Attache-toi à moi. Sois fidèle. Ne crains rien. C'est comme ça qu'il parle. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas de problème pour parler à l'ouvrier comme à l'intellectuel. Jésus passe partout. Autre clé pour réussir sa vie de prière, la confiance en Dieu. Quand on utilise le mot foi, c'est trop abstrait. Ah, moi j'ai pas de foi, je ne sais pas c'est quoi la foi, la foi, la foi. C'est trop abstrait, donc on va mettre ce mot de côté et on va le remplacer par confiance. Jésus a pris une parabole pour démontrer qui il est. Il a dit dans cette parabole, lorsque tu as un ami et que tu viens en pleine nuit frapper à la porte de cet ami et lui dire, s'il te plaît donne-moi 3 pains, j'ai des invités, je n'ai plus à manger, donne-moi 3 pains. Il dit que même si l'ami est dérangé, qu'il est avec ses amis, qu'il est avec sa famille et qu'il est fatigué, il va se lever quand même parce qu'il est son ami. Dieu donne des paraboles. C'est pour vous montrer quel est son caractère, comment il est. Et il veut que vous puissiez le mieux le connaître pour avoir confiance en lui lorsque vous venez. Vous savez, si vous ne développez pas une relation avec quelqu'un, c'est parce que vous n'avez pas confiance en lui. Ça veut dire que, par exemple, si un mari n'ouvre pas tout son cœur à sa femme, ou si une femme n'ouvre pas tout son cœur à son mari, c'est parce qu'elle se dit que si je dis ça, il va me mépriser. Voyez ? Moi, je connais des cas, je connais un cas particulièrement d'une femme qui avait, avant d'être mariée, vécu la prostitution. Elle est venue au Seigneur, tout ça, bon, le Seigneur l'a délivrée, elle s'est mariée, mais elle n'avait jamais dit ça à son mari. Parce que pour elle, si elle disait à son mari qu'elle avait été prostituée avant, elle pensait que son mari allait la mépriser. Et je lui ai parlé, je l'ai exhorté, je lui ai dit, écoute, non. Il faut que votre relation soit intime et profonde. Avec ton mari, il faut qu'il n'y ait aucun secret. Donc tu vas aller le voir et tu vas lui parler. Tu vas tout lui dire. Ha, c'était dur. Mais elle l'a fait. Et chose étonnante et merveilleuse, quand elle l'a fait, le mari a dit, je sens que je l'aime encore plus. Il l'a dit, je sens que j'aime mon épouse encore plus. Et tous les problèmes qu'il y avait dans le couple, je veux dire dans l'intimité sexuelle du couple, ont sauté. Tous les problèmes ont sauté. Parce que justement, l'amour, c'est la vérité. Et donc, quand vous êtes avec le Seigneur, vous devez pouvoir lui ouvrir tout votre cœur. Vous devez pouvoir lui dire, voilà, je me sens mal, Seigneur. Je sens que j'ai du mal. Je sens que ça ne va pas. Je me sens angoissée, Seigneur. Délivre-moi de mon angoisse. Et le Seigneur va le faire. Mais si vous continuez de fermer votre bouche, vous vous éloignez de la présence de Dieu, Dieu voit que vous ne lui faites pas confiance. Puisqu'il dit, au jour de la détresse, invoque-moi, je te répondrai, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc il est important pour vous de développer cette confiance vis-à-vis de Dieu en lui disant tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Vous pouvez parler de tout à Dieu. Il n'y a aucun sujet auquel vous ne pouvez pas lui parler. Et il faut le faire. Ne croyez pas que vous allez vous sentir gêné parce que vous allez parler de ces sujets à Dieu. Par exemple, pour les couples, des problèmes intimes, il faut en parler au Seigneur. Il faut en parler au Seigneur parce que ça gâche votre vie, ça pourrit votre vie, vous êtes aigri, vous êtes irrité. Dieu a créé l'intimité du couple pour donner un épanouissement aussi au couple. Et si les choses ne vont pas, alors ça va être difficile. Dieu sait que c'est un poids, mais c'est Dieu qui est votre créateur. Donc il faut venir auprès du créateur et lui en parler. Seigneur, délivre-nous. Et Dieu va vous bénir. Dieu va vous délivrer et vous serez un témoignage pour sa gloire. Ensuite, il faut suivre le modèle que le Seigneur nous a laissé. Ne vous écartez pas de ce modèle, s'il vous plaît. Parce que le Seigneur a dit, lorsque vous priez, dites. Il vous donne la direction. Jésus est votre bon berger qui vous conduit auprès des eaux paisibles. Il vous donne un vert pâturage. Il a dit, lorsque vous priez, dites. Alors ce modèle, on ne s'en écarte plus. On ne met pas la charrue avant les bœufs. On fait comme le Seigneur a dit et vous allez voir comment ça va être transformé dans vos vies. Patience, autre clé. Persévérance, ne pas s'arrêter, ne pas être comme un feu de paille, mais persévérer. Et lorsque vous voyez que vous commencez à diminuer dans votre vie de prière, c'est par la volonté que vous ranimez le feu. Et lorsque vous voyez que votre volonté ne suffit plus, c'est dans le jeûne que vous cassez tous les ennemis de la prière. Les ennemis de la prière, c'est quoi? Ce sont des esprits d'assoupissement. Lorsque vous commencez à prier, vous vous endormez. Les ennemis de la prière, c'est quoi? Ce sont des esprits de mort, qui sont des esprits très lourds en vous. Donc vous n'arrivez même plus à vous agenouiller pour louer le Seigneur, ni à vous mettre debout pour prier en langue, parce que il y a une lourdeur sur vous. Mais il faut accepter de briser le joug dans le jeûne. Un de ces jours, nous verrons au sujet du jeûne, parce que c'est vrai que c'est tout un enseignement, le jeûne. Et par la grâce de Dieu, j'ai un livre là-dessus qui va sortir. Je suis en train de terminer et de voir comment je vais pouvoir faire l'impression pour que vous ayez accès à cette connaissance. Dès que vous êtes dans des cas difficiles, des situations bloquées, le jeûne allié à la prière vous donne la victoire. Le Seigneur a dit, certains démons ne partent que par le jeûne et la prière. Les démons, ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez sentir qui vous fait vous tourner dans tous les sens, non. Des fois, les démons, ils sont assis dans votre vie dans certains domaines. Par exemple, le célibat. Par exemple, le chômage ou les problèmes financiers. Et vous constatez que le problème est là et il ne bouge pas. C'est avec le jeûne et la prière que vous déplacez ces montagnes. Et j'aimerais vous laisser, avant de partir, un dernier exemple. Avant de terminer cet enseignement, qui connaît l'exemple de Salomon dans la prière? Personne? Hein? Qu'est-ce qu'il a demandé? La sagesse. Et qu'est-ce que Dieu lui a donné? La richesse, la gloire, l'intelligence. Il a eu quoi au centuple? On a vu le centuple. Salomon, le meilleur exemple dans la prière. Il nous est dit que Salomon a offert des sacrifices à Dieu. Il faut que je prenne carrément le passage. On va le lire. Donc ça se trouve dans 1 Rois, chapitre 3, à partir du verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. » Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois, mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Quelle merveilleuse expérience que Salomon a faite. Dieu lui a parlé en pleine nuit et lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon a répondu au Seigneur. Mais j'aimerais premièrement vous dire que ce n'est pas un hasard. Si Dieu s'est présenté à lui et lui a dit « Demande-moi ce que tu veux », c'est d'abord parce que Salomon avait offert 1000 holocaustes à Dieu. Et regardez Corneille. Corneille avait fait des offrandes grâce au Seigneur pour les synagogues. Et Dieu a dit « Corneille, Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Aujourd'hui, je t'exauce, je te sauve, toi et toute ta famille. » Dieu se souvient de nos sacrifices. Dieu voit nos sacrifices. Et cela représente quoi? Ça représente évidemment nos offrandes, nos aumônes, nos générosités, nos libéralités. Mais cela représente aussi nos jeûnes, nos prières devant le Seigneur. Dieu voit les sacrifices que nous faisons pour chercher sa face. Et lorsque tu vas te mettre à le chercher, à vouloir avoir une vraie relation, à vouloir avoir un dialogue profond avec Dieu, Dieu va commencer maintenant à te regarder et dire, ah, alors là, toi, tu m'as touché. Là, je te vois devant moi constamment. Et là, il faut que je fasse quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Dieu veut faire ça pour son peuple. Aujourd'hui, il nous a dit, il ne nous voit pas. Il faut qu'il commence à nous voir. Il faut qu'il puisse te voir, peuple de Dieu. Il faut que tu sois constamment devant la face du Seigneur. Et lorsque il a entendu que le Seigneur lui a invité à demander ce qu'il voulait, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu allais demander. Mais en tout cas, Salomon a été sage. Imagine, le Dieu de toute la création, le Dieu de toute gloire dit, demande-moi ce que tu veux. Oh, Seigneur, qu'est-ce que je vais te demander? Aïe, aïe, aïe. Mais il a été sage. Il a voulu pouvoir régner sur le peuple avec justice et sagesse. Alors il a dit au Seigneur, Seigneur, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ma propre vie. Ce qui m'intéresse, c'est l'avancée de ton règne. Ce qui m'intéresse, c'est ton royaume. Ce qui m'intéresse, c'est le peuple que tu t'es choisi pour qu'il publie tes louanges. Alors Seigneur, je te demande la grâce de pouvoir les diriger avec intelligence, sagesse, de pouvoir leur dire le droit afin qu'ils marchent devant ta face. Et que la gloire soit sur eux. Quand le Seigneur a entendu cette demande, Dieu a dit, voilà, je te donne non seulement ce que tu m'as demandé, la sagesse, mais je te donne en plus la richesse et la gloire comme personne n'aura jamais eu. Et lorsque le Seigneur a dit cela, sachez que c'est une histoire donc réelle, que la gloire de Salomon a réellement existé. Mais en plus de cela, le Seigneur s'adresse à nous au travers de cette histoire. Et le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. Et j'aimerais te dire que si tu ne connais pas l'exaucement de Dieu dans ta vie, c'est parce que tu ne t'es pas soucié du royaume de Dieu sur terre. Tu ne t'es pas soucié de l'œuvre du Seigneur. Tu ne t'es pas soucié de l'avancée de son royaume pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que je dois avoir? Seigneur, donne-moi des dons. Donne-moi des dons spirituels. Seigneur, peut-être que si tu me donnes la prophétie, je pourrais encourager ton peuple et ton peuple va marcher dans tes voies. Peut-être que si tu me donnes le don de guérison, des malades seront guéris et Seigneur, ils témoigneront ta gloire. Peut-être, Seigneur, que si tu me donnes le don des miracles, les incrédules croiront, Seigneur. Mais tu étais dans la vanité. Tu as demandé tous les jours, Seigneur, regarde ma vie, donne-moi une maison, donne-moi une voiture, donne-moi mon mari. C'est tout ce que tu demandes à Dieu. Et Dieu voit, il ne peut pas exaucer. Parce qu'il a des lois spirituelles, il a des principes. Demandez premièrement et tout vous sera donné par la suite. Donc il est temps de te lever. Comme Salomon s'est levé. Pourquoi? Parce que Salomon a entendu la voix du Seigneur lui dire, demande-moi ce que tu veux. Mais j'aimerais que tu saches que le trône de grâce est ouvert, que que les cieux sont ouverts au-dessus des enfants de Dieu. Depuis 2000 ans, Jésus a dit, tout est accompli. Jésus a dit, demandez afin que votre joie soit complète. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne m'avez rien demandé, mais demandez. Dieu veut répondre, Dieu veut donner. Mais il voit que le centre d'intérêt n'est pas le Seigneur, n'est pas le royaume de Dieu. Alors à partir d'aujourd'hui, tu vas changer ta prière. Tu vas commencer à rechercher les choses d'en haut. Avec ardeur, avec zèle. Tu vas oublier ta petite vie. Tu vas oublier ton image dans le miroir. Tu vas arrêter de te regarder à toi-même. Tu vas arrêter de t'apitoyer sur toi-même. Et tu vas commencer à chercher à être un instrument pour la gloire de Dieu. Et tu vas voir comment Dieu va faire suivre ta vie de bénédiction abondante. Abondante, que les témoignages n'en finiront plus. C'est le moment. C'est le moment, peuple de Dieu. Dieu a donné ses dons. 1 Corinthiens 12, pour que le peuple de Dieu soit un peuple fort. C'est le moment pour toi. Alors tu vas te lever à ta place, levez-vous, et tu vas rentrer dans cette vie nouvelle de prière. Qui veut marcher dans cette gloire de Dieu? Qui veut réengager sa vie de prière avec le Seigneur? Alléluia. C'est le moment. Là, il s'agit, la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Et tu vas ranimer ta vie spirituelle. Tu vas ranimer le feu de la prière dans ta vie. Tu vas t'approcher du Seigneur. Tu vas avoir une communion intime. Donc je vais vous demander de répéter ces paroles après moi. Après quoi nous allons rentrer dans un petit temps de prière pour vous permettre de booster votre vie et prendre la victoire. Seigneur Jésus, je te glorifie. Je te sanctifie. Et je t'honore maintenant. Parce que tu es grand. Parce que tu es puissant. Et que tu m'as parlé. Je veux que désormais tu règnes sur mon esprit. Tu règnes sur mon âme. Tu règnes sur mon corps. Pour que je rentre maintenant dans une relation intime avec toi. Tu es si glorieux. Tu es si précieux. Tu en es digne, Seigneur. Me voici devant toi. Je ranime ma vie de prière. Je ranime ma vie de prière. Oublie toutes mes négligences. Oublie toutes mes incrédulités. Oublie toutes mes froideurs. Oublie tous mes tâtonnements. Aujourd'hui, je m'investis dans un cœur à cœur avec toi. Chaque jour, je prendrai la volonté que tu m'as donnée.
Je prendrai la volonté que tu m'as donnée.
Pour prier, pour jeûner.
Et pour voir ta gloire.
Dans ma vie. Je veux être témoin.
De ta puissance.
Tu as dit que tu es prêt.
De tous ceux qui t'invoquent.
Aujourd'hui, je t'invoque, Seigneur. Approche-toi de moi. Approche-toi de moi. Approche-toi de moi. Approche-toi de moi.
Oui, Seigneur.
Car je m'approche de toi. Merci, Seigneur. Pendant que ce chant est en train de jouer, je vous demandais vraiment de prier. Je vais vous demander de prier pendant que ce chant est en train d'être joué. Vous allez suivre chaque point que je vais dire. Vous allez prier dans le même sens de ce que je vais dire. Parce que je veux que la gloire de Dieu soit manifestée dans votre vie de prière. Je veux que vous soyez des gens réveillés. Parce que c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. C'est de réveiller votre vie de prière. Alors tu vas invoquer le Seigneur. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Que tu sois rempli de l'esprit. Ceux qui parlent en langue, vous allez parler en langue. Et ceux qui ne parlent pas en langue, vous allez parler à Dieu et vous allez lui dire, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton feu à nouveau, remplis-moi de ton zèle, remplis-moi de ton amour. Commencez à prier. Commencez à prier. Seigneur Jésus.
Apprends ce que tu nous as donné. Veux-tu
prier?
De l'esprit.
Remplis-toi du Saint-Esprit. Connecte-toi à Jésus. Remplis-les de ta puissance, remplis-les de ton onction. Lève les mains vers le ciel, parce que la Bible dit que lorsque tu demandes, quoi que tout ce que tu demandes, tu le reçois. Il faut que tu sois dans une position de recevoir. Lève les mains vers le Seigneur et prie. Seigneur Jésus, oui Seigneur, je veux ton esprit, je veux ta force, je veux la force de la prière, je veux la force de la prière, je veux la force de la prière. Lorsque je me lève le matin.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.